un frondeur pour nos temps contemporains.
Son style était comparé à celui du cardinal de Ré. Il est vrai qu'il avait un rapport à la langue française assez tendu, exigeant, et que ce style assez coupant, très logique et plein d'énergie, en fait, il trouvait que les qualités de la langue servait vraiment à la dialectique, à la logique, et le français lui semblait une langue particulièrement capable de ce point de vue.
Prénom ?
Guy.
Nom ?
Debord.
Date de naissance ?
28 décembre 1931, à la tombée de la nuit.
Ses études ?
Interrompues, après le baccalauréat.
Profession ?
Oh, sans profession, à moins que la direction de l'Internationale Lettriste, puis de l'Internationale Situationniste, qui n'avait jamais plus de 10 membres en même temps, n'en soit une.
Son plus haut fait ?
En 1968, la participation à l'occupation de la Sorbonne pendant très peu de jours pour démentir 7 siècles de sottises.
Et ses ressources ?
Difficile à déterminer. Il doit beaucoup à plus d'une femme. Il a aussi eu des mécènes, parmi eux Gérard Lebovici, personnalité importante du cinéma, dont il se persuadera que l'assassinat en 1984 le visait aussi.
Ses œuvres principales ?
Des films qui sont des livres ou l'inverse, le plus connu étant La Société du spectacle. Mais 20 ans plus tard, en 1988, les commentaires sur La Société du spectacle sont encore plus importants.
Sa mort ?
Guy Debord, atteint de polynévrite alcoolique, se suicide le 30 novembre 1994 dans sa maison de Haute-Loire. En l'an 2000, l'État achètera ses archives pour en faire un trésor national.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Je vais commencer par dire qu'en ces temps de métro, boulot, dodo, nous allons parler d'un homme de désir. Ce désir s'est exprimé sous des formes d'avant-garde destiné à surprendre, puis la jaquette blanche classique de Gallimard lui a très bien convenu. Mais il a, du début à la fin, cherché à ouvrir les portes d'un entendement libérateur. Notre interlocutrice pendant cette émission sera Cécile Gilbert, qui a publié « L'autre millénaire », un pour Guy Debord.
C'est un classique, et d'ailleurs ce qui était frappant dans ce dont il se revendiquait comme influence, on dirait littéraire, parce que c'est une belle langue, ce sont devenus des classiques, mais en fait, il n'y a pas un seul écrivain professionnel, entre guillemets, qui l'a influencé. Tous les hommes qui l'ont influencé étaient des conseillers du prince, des penseurs stratégiques. Alors ça va de Thucydide à Gondi, mais en passant par Cravant, bon, qui était un déserteur, c'était pas un chef de guerre, mais Machiavel, Saint-Simon... La poésie, beaucoup, la poésie lui plaisait beaucoup. Et il s'était défini comme écrivain, penseur stratégique et aventurier français.
Oui, mais avant le stratège, l'enfant, il s'est présenté, ça lui est arrivé en tout cas, comme un enfant gâté. Mais comment entendre ce mot ? Ce n'est pas une chance de perdre son père avant ses 5 ans et de n'en garder quasi aucun souvenir. Est-ce une chance d'avoir une mère qui s'établisse confortablement avec un notaire de la haute société de la Côte d'Azur, mais qui ne laisse pas de place ni à l'enfant, ni à ce qu'il va devenir. Dès l'adolescence, Guy cherche dans les avant-gardes artistiques des figures de substitution à celles de la bourgeoisie qui l'entoure. S'offre autour d'Isidore Isou le mouvement lettriste. Au-delà du simple jeu avec la musique des lettres, ce mouvement privilégie la novation, cherche le scandale. Et Debord, tout jeune, s'offre le luxe d'y créer de suite une dissidence qu'il n'hésite pas à nommer l'Internationale Lettriste. Ce sera un de ses soucis constants de faire advenir l'aventure.
Bataille entre les lettristes et le public.
Interdiction de ce film par la censure.
Publication par l'ensemble des lettristes de l'unique numéro de la revue Yon.
Tract et interruption lettriste au 5e festival cinématographique de Cannes.
Arrestation d'une dizaine de manifestants.
Sabotage du congrès de la jeune poésie réuni au musée pédagogique de la rue d'Ulm.
L'emploi de nombreuses forces de police contre les lettristes entraîne le retrait d'un grand nombre de participants.
Debord et Volman fondent arbitrairement à Bruxelles l'International Lettriste.
Présentation au ciné-club d'avant-garde du film de Debord, Hurlement en faveur de Sade.
L'assistance l'interrompt après 10 minutes de projection seulement.
L'International Lettriste attaque une conférence de presse tenue par Chaplin pour la présentation du film Limelight et il lance le tract « Fini les pieds plats ».
Peut-on voir un cimetière sans penser à Gide et à Mauriac? Debord et sa bande recommandent la fin des cimetières et aussi des cadavres et de toutes ces sortes de choses. D'un même mouvement est prônée la suppression des églises et l'usage du mot « saint ». À dire le vrai, l'International Lettriste n'est qu'un groupe informel au milieu de la nébuleuse des amis de Debord qui va de café en café du côté de la montagne Sainte-Geneviève. Pardon, de la montagne Geneviève. C'est souvent Michel Bernstein, la première épouse de Debord, qui paye la note. La voici évoquant ses souvenirs de 1953 et des années suivantes avec Benoît du Tertre.
Nous avons, vers 53, quitté le 6e pour aller dans le 5e.
Voilà. Mais alors, arrêtons-nous un instant. Rue Dufour, c'était un endroit qui s'appelait chez Moineau, hein.
Voilà.
Et c'est là que vous vous retrouvez régulièrement avec Guy Debord, que vous allez épouser 2 ans plus tard en 1954. Et alors vous allez vous déplacer un petit peu d'un bistrot à l'autre en vous dirigeant vers la montagne Sainte-Geneviève.
Voilà.
Et en passant par un endroit dont on retrouve l'adresse d'ailleurs dans la revue célèbre pour ceux qui s'y intéressent, Potlatch, la revue des lettristes, une adresse rue de la montagne Sainte-Geneviève, c'est qui était ça. Un autre bistrot.
C'était un autre bistrot parce que Debord avait emmené sa bande, y compris moi. Guy Debord, donc, et moi, nous mangeions quelquefois, et très bon marché, dans un bistrot qui s'appelait Le Manouche, où ouais. Jacques Florency jouait de la guitare et chantait un peu. Ouais. Et Jacques Florency, qui n'avait pas un rond,
ouais.
dit à moi qu'il en avait 3/4, puisque j'avais un travail et même j'étais en période d'indemnité, me dit, j'ai trouvé un bistrot où il n'y a que des ivrognes qui s'appelle Le Petit Bacchus. J'ai parlé à la propriétaire, on va en faire un cabaret. On voulait l'appeler, ça c'est l'influence de Debord, c'était juste avant le référendum.
Pour la constitution de 58. Hein,
c'est voilà. ça. Alors on voulait l'appeler au nom ferme et résolu.
Ça veut dire voter non. Hein,
ben oui, voilà, oui. Mais malheureusement, les murs n'avaient pas fini d'être blanchis. La France avait déjà voté oui. Alors nous étions en panne de nom, et ça je suis fier de cela, c'est moi qui ai dit, en face de deux rues Descartes, ça s'appellera La Méthode.
Ben oui, c'est logique.
Et
oui.
depuis c'est resté La Méthode.
Alors j'ai d'ailleurs quelques-unes de ces petites formules publicitaires conçues par vous et Debord. Par exemple, le soir après 10h, si vous ne relisez pas Schopenhauer, vous êtes forcément à La Méthode de rue Descartes, etc.
Monsieur Lebrun, d'une internationale l'autre. Guy Debord va passer de l'international lettriste à l'international situationniste.
1957, une internationale en effet plus transfrontalière que la première. L'international situationniste publiera une revue de belles factures graphiques dont chaque numéro se vendra à quelques exemplaires seulement, mais qui sera livrée gratuitement à 200 ou 300 personnes qui comptent. Le souci du chiffre ne préoccupe pas Debord, sinon il n'aurait pas procédé à tant d'exclusions qui laissaient constamment le nombre des membres au-dessous de 10. Exclusion qui se faisait dans la violence, menaces physiques, dévoilement de la vie privée, humiliation publique. Et ceux qui croisaient seulement le chemin de la petite bande n'étaient pas mieux traités. Ainsi, le journaliste de cinéma Robert Chazal, qui avait eu le tort d'aller au devant de la victoire en chantant les louanges de Chaplin. Par la même occasion, vous entendrez un premier échantillon de la voix monocorde et si particulière de Guy Debord.
Feu Chazal, tu as été mal inspiré de nous insulter pour défendre la dernière superproduction des artistes associés qui, comme chacun sait, te payent grassement. Nous avons par hasard pris connaissance à Bruxelles de cette preuve écrite de ta connerie permanente et décidé de casser ce qui te tient lieu de gueule sitôt que nous serons rentrés en France. Tu paieras pour les autres, dont tu as porté à la plus faisandée perfection la lâcheté conformiste et l'admiration publicitaire. Faux témoin, indicateur et probablement pédéraste, tu as assez bavé. Nous débarrasserons la presse française d'une de ses plus représentatives ordures. À très bientôt. Signé Jean-Louis Brault, Guy Ernest Debord, Gigi Volman. Hey, 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 hey.
Le Debord lettriste ne parlait pas en termes de lutte des classes, le Debord situationniste, si. Les années 60 sont des années de hautes eaux du marxisme. Debord a été atteint à son tour. À titre d'exemple, voici un extrait du livre qu'il publie en 1967 chez Buchet-Chastel et qui fera plus tard sa réputation, La Société du Spectacle. Guy Debord.
Les deux seules classes qui correspondent effectivement à la théorie de Marx, les deux classes pures vers lesquelles mène toute l'analyse dans le Capital, la bourgeoisie et le prolétariat, sont également les deux seules classes révolutionnaires de l'histoire, mais à des conditions différentes. La révolution bourgeoise est faite. La révolution prolétarienne est un projet, né sur la base de la précédente révolution, mais en différant qualitativement. En négligeant l'originalité du rôle historique de la bourgeoisie, on masque l'originalité concrète de ce projet prolétarien qui ne peut rien atteindre sinon en portant ses propres couleurs et en connaissant l'immensité de ses tâches. La bourgeoisie est venue au pouvoir parce qu'elle est la classe de l'économie en développement. Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu'en devenant la classe de la conscience.
Bon, de la classe ouvrière, Debord a une connaissance très limitée. Il a davantage de goût pour les marginaux, ceux que Marx appelait le lumpen prolétariat, ou les années 60, les blousons noirs. Mais à l'époque, le drapeau rouge est un passage obligé. Cécile Guilbert.
Bah, comme on est toujours un peu le produit de son temps... Tout génial qu'il fût ou pas, tout intelligent qu'il fût ou pas, il est né quand même en 31 ou 32, je me souviens plus. Il est quand même le produit de son temps et il arrive, il voit ce monde ruiné. Hein, il naît après la grande crise de 29. Et c'est tout à fait normal qu'un homme de, disons, de sa génération soit sous l'influence. Allez, ce qui nous semble aujourd'hui comme quand même très un vieux, alors pas un vieux monde, mais un vieux langage, celui de la dialectique de Hegel, de Marx, c'est sa nourriture, c'est ce qui l'influence, et peut-être c'est un révolté aussi, il faut pas oublier cette dimension quand même, c'est un affect la révolte, c'est pas seulement quelque chose de mental et d'intellectuel. Il y a des gens qui ne supportent pas l'injustice, il y a des gens qui sont moins égoïstes ou qui ne peuvent pas vivre dans un monde où tant de gens sont malheureux, où l'injustice sociale est si forte. Bon, donc c'est un révolté, et il a ces outils-là au début, et il s'en sert.
Debord a lui aussi et fréquenté à leur risque et péril les intellectuels qui proposaient une lecture critique du marxisme. Le sociologue Henri Lefebvre, les animateurs des revues Argument, Socialisme ou Barbarie. Et comme eux, il met l'accent sur le concept d'aliénation. L'aliénation pousse à la consommation de produits inutiles et bientôt obsolètes. Opposons-lui le désir de ce qui est nécessaire, le désir toujours. La révolution que Debord ne se soucie guère de définir est un autre nom du désir. 1966, à Strasbourg, les situationnistes publient « De la misère en milieu étudiant ». Mais, 1968, à Paris, Debord ne participe qu'un instant à l'occupation de la Sorbonne. Il s'éclipse ensuite. La cour de l'université continue à exposer sur ses tréteaux les productions des différentes sectes marxistes-léninistes. Peu importe, 68, c'est le situationnisme en acte, sans qu'il en soit de suite conscient. Les situationnistes qui, à la différence de beaucoup de 68ards, n'ont jamais confondu les bureaucraties des appareils d'État communistes avec la Révolution. La Société du Spectacle.
Le stalinisme fut le règne de la terreur dans la classe bureaucratique elle-même. Les membres de la classe bureaucratique au pouvoir n'ont le droit de possession sur la société que collectivement, en tant que participants à un mensonge fondamental. Il faut qu'ils jouent le rôle du prolétariat dirigeant une société socialiste, qu'ils soient les acteurs fidèles au texte de l'infidélité idéologique. Mais la participation effective à cet être mensonger doit se voir elle-même reconnue comme une participation véridique. Aucun bureaucrate ne peut soutenir individuellement son droit au pouvoir, car prouver qu'il est un prolétaire socialiste serait se manifester comme le contraire d'un bureaucrate. Et prouver qu'il est un bureaucrate est impossible, puisque la vérité officielle de la bureaucratie est de ne pas être.
À l'orthodoxie des staliniens, dont il dit qu'elle s'étend à la Chine de Mao, comme au Cuba de Castro, Debord oppose le rire libérateur de l'hédonisme et de la satire. Son camarade René Viennet, qui deviendra un grand sinologue, les tout premiers à dénoncer les mensonges de la révolution culturelle, utilise lui aussi l'humour. C'est une arme du lettrisme, le détournement. Exemple, au début des années 70, Vianney reprend les images et une partie de la bande-son d'un film de kung-fu qu'il truffe de dialogue à sa façon et affuble d'un nouveau titre. Écoutez comment la dialectique peut casser des briques.
À propos, j'y pense. N'est pas la première fois que ça arrive. On vous a déjà eu sans faire de prisonniers en Catalogne en 37. Et puis dans les rues de Budapest en 58. À la prochaine fois.
Bien marre. Je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie.
Tu peux retoucher un mot à ton syndicat, ou bien l'île Nouvel Observateur.
Tu me prends pas un peu pour un con? Bureaucrate, on n'est pas des militants. On ne se laissera plus jamais faire l'arme de la critique.
Et voilà comment la subjectivité radicale peut devenir une force pratique.
Bon, autre exemple de détournement, c'est en 74, c'est un disque signé Jacques Leglou qui reprend des chansons bien connues. L'interprète, c'est Vanessa Hachloum. Enfin, entendez, Jacqueline Dano.
Sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
France Inter. Intelligence, service.
Ne plus jamais travailler, dit la chanson. Justement, de quoi vit Guy Debord? Leader d'un petit groupe sans moyens, il a pourtant réussi à éditer une revue d'un graphisme très soigné. Et ses revenus d'auteur sont dérisoires. Avez-vous des explications, monsieur Lebrun?
Ah ben les femmes avec qui il vivait, on l'a entendu la première, Michel Bernstein, qui rapportait un salaire qu'il s'entendait bien à dépenser, mais ça ne pouvait suffire. Dès les années 1960, la revue de l'Internationale Situationniste, si belle, exigeait d'importants frais d'impression. Le recours au mécénat fut nécessaire. À cet égard, la rencontre plus tard avec Gérard Lebovici fut providentielle, si on peut employer le mot quand on parle de Debord, qui détestait tout mysticisme. Lebovici, rescapé de la Shoah, à ce titre proche de Polanski, était une personnalité importante du cinéma, notamment grâce à son agence d'acteurs Art Média, qui défendait les intérêts des plus grands. Il avait aussi la main sur une maison d'édition, Champ Libre, dont il voulait faire un terrain d'expérience. Jean-Marie Apostolides, il a publié une biographie aussi documentée que peu aimable sur Guy Debord.
Il écrit à certains de ses amis pour parler des premières relations qu'il a avec Lebovici, en le présentant simplement comme un individu riche qu'il faut pressurer et dont il faut tirer le maximum, un individu qu'il méprise et pour lequel il n'a pas grand intérêt. c'est du moins le personnage qu'il joue vis-à-vis de ses camarades, de façon à ne pas être accusé de pactiser avec l'ennemi capitaliste. Donc, il s'approche doucement de lui. Mais dans la tête de Debord, c'est dans le but d'obtenir plus de la part de Lebovici, donc il lui donne moins, de façon à ce que Lebovici, qu'il a immédiatement perçu comme un personnage important, comme un personnage qui reçoit chez lui ou dans Art Media, qui reçoit beaucoup de gens importants du cinéma qui viennent lui manger dans la main, Debord veut lui montrer que lui, il est beaucoup plus fort que tous ces gens-là, donc il n'a pas une attitude de soumission, de, il n'en voit pas les signes de politesse que Lebovici serait en droit d'attendre. Et en un sens, Lebovici tombe dans ce panneau ou dans cette attitude, et du fait que Debord ne semble rien attendre de lui, il lui offre chaque fois plus.
C'était, je crois, une amitié immédiate, parce que l'un comme l'autre sont des hommes qui donnaient une confiance immédiate.
Gérard Guégan, qui fut un indomptable fondateur de Champs Libres.
Donc Gérard avait vu les premiers films de Guy, il avait trouvé ça formidable, il avait trouvé très important, et pour cause, le livre, la Société du Spectacle. C'est un petit peu là-dessus qu'a commencé leur amitié, qui était chez Buchet-Chastel, qui voulait plus le rééditer, et il y a eu un procès que Gérard a gagné, et la Société du Spectacle a pu paraître chez Champs Libres. Et du livre, c'est passé au film. Et le film, l'avance sur recette avait été refusée, aucune chaîne de télévision ne voulait y aller. Donc, c'est Gérard qui a été, quoi. Donc, il a produit le film, sauf qu'il y avait des problèmes d'exploitation. Donc, pour aller jusqu'au bout du processus, il fallait acheter une salle. Donc, non seulement il produit, il distribue, il s'est découvert exploitant. Il a acheté le Cujas. Et les films de Guy Debord passaient au Cujas.
Et exclusivement les films de Guy Debord. Faut-il d'ailleurs employer le mot film? Debord choisit et monte des images qu'il a décontextualisées, sur lesquelles il surimpose les thèses du livre qu'il lit lui-même. Alors le résultat déconcerte. A-t-il inventé un cinéma de théorie? Première thèse, le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. Enfin, autrement dit, l'économie marchande régnant partout, tout s'achetant et se vendant. Les techniques qui nous gouvernent ont réussi à éloigner le réel et à en produire des représentations qui se vendent et s'achètent. Debord a été ainsi le premier à prévenir du danger de muséification des centres-villes.
De même que différentes marchandises vedettes soutiennent simultanément leurs projets contradictoires d'aménagement de la société, où le spectacle des automobiles veut une circulation parfaite qui détruit les vieilles cités, tandis que le spectacle de la ville elle-même a besoin des quartiers musées. Le spectacle ne chante pas les hommes et leurs armes, mais les marchandises et leurs passions. C'est dans cette lutte aveugle que chaque marchandise, en suivant sa passion, réalise en fait dans l'inconscience quelque chose de plus élevé, le devenir monde de la marchandise, qui est aussi bien le devenir marchandise du monde.
Et que dire de ces avertissements sur le tourisme?
Sous-produit de la circulation des marchandises, la circulation humaine considérée comme une consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d'aller voir ce qui est devenu banal. L'aménagement économique de la fréquentation de lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. La même modernisation qui a retiré du voyage le temps lui a aussi retiré la réalité de l'espace. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener
et de temps en temps parler dans le noir.
Et dans la nuit, nous tournons en rond et nous sommes dévorés néanmoins par le feu. En latin, ingirum imus nocte et consumimur igni. C'est le titre du 16e et dernier film de Debord qui a été réalisé en 1978. Debord a été enregistré tout seul, la bande-son, sans technicien, on vous l'épargne. Le film est montré au Cujas en 1981. Cécile Gilbert.
Un jour, je m'ennuyais et j'avais envie d'aller au cinéma et j'ai acheté Pariscope, puisqu'à l'époque, on trouvait Pariscope. Et il y avait une rubrique qui s'appelait Film politique. Et Film politique, j'avoue que c'était la première fois que je voyais ça. Et je vois un titre latin d'un certain Guy Debord, inconnu au bataillon, qui est « Imgirum imus nocte et consumimur igni ». Et c'était pas très loin de là où je me trouvais, studio Cujas, dans mon souvenir, et je me rends à cette séance où nous étions très peu nombreux. Et j'assiste à ce film, que je trouve stupéfiant, enfin, au sens, d'abord, du tout au cinéma dont j'avais l'habitude, c'était un autre usage du cinéma, c'était pas du tout une intrigue, c'était même pas un documentaire, c'était un film de réflexion politique puissant et qui commençait déjà par nous mettre, nous, les spectateurs, en cause, puisqu'on voyait déjà dans les premières images du film, ou très vite dans le film, des spectateurs complètement hypnotisés par un écran. Donc il y avait vraiment la caméra sur voilà, une foule au cinéma, regardant de façon passive et médusée des images. Et évidemment, c'est un film sur à la fois l'époque, le pouvoir des images, le pouvoir du verbe, et il y avait cette voix off, dont j'ai su par la suite que c'était celle de Debord lui-même, cette voix assez douce, assez mélodieuse, un peu monocorde, et avec des dégagements poétiques, et si vous voulez, une disjonction, je me suis rendu compte par la suite que c'était le propre du cinéma de Debord, à savoir la disjonction de la bande-son et de l'image. C'est-à-dire que la voix et ce qu'on entendait dans la bande-son n'était pas forcément en lien avec ce qu'on voyait au moment où les mots étaient prononcés. Et surtout, il y avait une assez forte tenue littéraire. Et par la suite, d'ailleurs, le texte de « Imgirum imus nocte et consumimur igni » a été publié par Gérard Lebovici. Et on voit que c'est tout à fait un livre. Quand je dis c'est un livre, c'est un texte. Il y a ce plaisir du texte, comme disait Barthes. Et donc, effectivement, je suis sorti de là assez enthousiaste,
à la différence des autres spectateurs du studio Cujas.
Voilà, c'est ça, et qui disait c'est pas du cinéma. Et moi je me disais ça ressemble à un assez bon livre. Et par la suite, ça m'a donné l'envie évidemment de voir qui était Guy Debord et de lire certains de ses livres.
Ben, c'est ça la question. Il ne considère pas le cinéma comme une forme nouvelle de pensée.
Si, disons qu'il considère un peu comme Godard, il considère que le cinéma aurait pu être autre chose que ce qu'il était devenu, finalement, massivement. Mais il pensait que tout le devenir du cinéma était devenu spectaculaire, en fait. Au sens nourrissant une industrie avec un certain type de contenu. Et Godard disait la même chose. Il a dit, après tout, le cinéma aurait pu être une gigantesque documentation de la vie sur Terre. C'est la partie documentaire qui aurait pu prendre le dessus. Et après tout, c'est vrai, quand on voit les Frères Lumière faisant leurs premiers essais, on n'est pas dans la fiction ou dans la psychologie, on est dans le documentaire. Mais évidemment, c'est une forme marginale, le documentaire, et le cinéma politique encore plus.
Monsieur Lebrun, le monde politique ne ressemble-t-il pas de plus en plus à celui qu'avait pressenti Guy Debord ?
Ben oui, il y a des militants politiques qui pressentent que le fulgurant Debord dit quelque chose de leur avenir. Les plus opportunistes, faisant une lecture un peu courte de notre auteur, se disent qu'il va falloir faire du spectacle. Les plus lucides disent qu'il en va de la démocratie, qui a besoin de temps, de recul pour convaincre. Or, dit Debord, nous entrons dans un présent constant, sans conscience historique. Et puis, les plus optimistes parient sur la vertu. Le jeune Roger Gérard Schwarzenberg, avant de devenir député radical de gauche perpétuel du Val-de-Marne, se fait connaître, en 1977, avec un livre qui a beaucoup d'écho, « L'État-spectacle ».
Il n'y a pas une fatalité du spectacle à la télévision. Je suis certain que certains hommes politiques font du spectacle à la télévision. Monsieur Ford et Carter, par exemple, ont fait du spectacle à la télévision. Les conseillers de Monsieur Ford, avant le premier débat télévisé qui les a opposés l'an dernier, ont exigé que les deux candidats soient séparés simplement par 2,75 m. Et qu'il reste debout. Pourquoi ? Parce que, avec cette si courte distance, on s'apercevrait que le président Ford était plus haut, plus grand, je veux dire, et plus large que M. Carter. Et en revanche, les conseillers de M. Carter ont obtenu que les pupitres, derrière lesquels les candidats étaient debout, viennent simplement à mi-corps des candidats, et non pas jusqu'au visage, parce que, disait-il, M. Ford vaut zéro en expression corporelle, alors que M. Carter joue admirablement de ses mains et de son torse. Alors, quand on arrive à ce degré de spectacle, évidemment, il faut crier... jeter une sorte de cri d'alarme.
Roger Gérard Schwarzenberg n'avait pas prévu que les acteurs seraient prédisposés à devenir des personnalités politiques de premier plan, ou bien les acteurs de télé-réalité. Dorénavant, le spectaculaire est intégré au politique, le politique qui produit des images qui vont finir par le recouvrir. Mai 95, tout juste élu, Jacques Chirac décide de se faire suivre au plus près par la télévision, lorsqu'il quitte son quartier général.
Cortège de Jacques Chirac en direct, suivi par notre moto.
Qui vient de quitter l'avenue d'Iéna, qui redescend sous les ovations de ses partisans qui avaient commencé à déserter l'avenue d'Iéna pour se diriger progressivement, je suppose, vers la place de la Concorde. Pour l'instant, nous le suivons sans trop savoir précisément si le nouveau président de la République a l'intention de se rendre ou pas à la fête qui se déroule en ce moment en place de la Concorde. Les bruits ici contradictoires circulent. On dit qu'il pourrait s'y rendre, on dit aussi qu'il pourrait ne pas s'y rendre. La meilleure des choses est donc de le suivre. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé à l'aller, eh bien, il y a des motards qui ouvrent la route devant la voiture du nouveau président de la République.
Vous partez dans quelle direction là, Benoît ?
Pardon ?
Vous partez dans quelle direction ?
Je suis navré, je ne vous entends pas du tout.
J'ai l'impression que vous redescendez vers le pont de l'Alma, non ?
Place de l'Alma, nous arrivons place de l'Alma. Avec Jacques Chirac qui est ovationné, beaucoup de gens klaxonnent en voiture. Ils saluent les gens qui sont à la fois sur les trottoirs ou dans les voitures. Et le rythme est, je vous dis, beaucoup plus rapide qu'à l'aller.
Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation.
Et Debord ajoute, le vrai et le faux dans la société du spectacle ne se distinguent plus. Nous sommes quelques années après la virée de Chirac avec Benoît Duquesne. Les organisateurs du Loft sur M6 mettent en place la même disposition pour les vainqueurs du jeu de télé-réalité. Le point de départ, c'est simplement un studio de la Plaine Saint-Denis et le point d'arrivée, une boîte de nuit.
Ah, on a le cortège, va regarder. Voilà, les deux vainqueurs.
Vous m'entendez, Benjamin ?
Johanna et Christophe.
Vous m'entendez, Benjamin ? Alors voilà, je suis
en direct. Max, commentez-nous.
Alors ben justement, je vais vous expliquer. Bien sûr, ça a été la cohue tout à l'heure lorsqu'on est sorti. Maintenant, on va faire avec bien calmé. Il y a du monde derrière. Je suis juste à côté, effectivement, de la voiture avec Johanna et Christophe. Je vais m'approcher de Christophe. La première réaction, il a été un petit peu ému, ce qui est normal, mais sa première réaction, quand on voit tout ce monde, quand on voit tous les gens qui applaudissent, qu'on a envie de se faire embrasser, les gens qui klaxonnent, quel effet ça fait ?
Bah écoute, c'est plutôt super impressionnant. Là, on a du mal à réaliser, mais franchement, c'est grandiose. On voyait ça qu'à la télé, maintenant, ça nous arrive à nous. On va en profiter grave, quoi, c'est clair.
Surtout que la fête, on va la faire. Hello, Anna, maintenant, ça va un petit peu mieux. Ta première réaction comme ça dans la voiture à côté de Christophe, les deux vainqueurs.
C'est énorme, je pense pas qu'il y ait de mots. C'est fantastique. Avec Christophe, je suis contente. C'est un super ami, il est génial. Avoir gagné avec lui, ça va être un plaisir. Et voir tout ça autour de moi, je sais pas, je vous raconterai peut-être demain, mais là, c'est trop gros.
Soyez prudent, Max, vous êtes sur une moto tout de même.
Là, on a roulé, on est à 40.
Ça me rappelle l'élection de Chirac, dites donc, ce qu'on est en train de vivre là.
C'est un petit peu 195, effectivement. Je suis pas Duquesne, mais c'est presque ça. Hein. C'est Max. Donc là...
Mettez les watts.
Sans doute, ce qui est encore important ne peut-il plus exister que caché. Si Debord a une descendance politique, il faut la chercher écrite dans des souterrains. L'encyclopédie des nuisances, par exemple, qui tenta, comme son nom l'indique, de rédiger une autre encyclopédie, comme l'avaient fait aussi des anarchistes. Le comité invisible de Tarnac, avec Julien Coupa, qui appelait à l'insurrection qui vient. Mais on peut aussi être fidèle aux situationnistes en se disant réactionnaire. Debord lui-même affirmait « penser à l'histoire, comparer, c'est déjà être réactionnaire ». Et cela arrive à Cécile Guilbert plus souvent qu'à son tour. Elle dit qu'être réactionnaire en temps de progrès, c'est critiquable, mais qu'être réactionnaire en temps de décomposition, c'est louable. Et les temps numériques poussent à la décomposition.
On imaginait que l'informatique allait être à la fois le Graal. Et d'ailleurs, il y avait tout un vocabulaire. Alors, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait tout un vocabulaire religieux qui était associé à l'informatique. On a l'impression qu'OK, Dieu est mort, mais si vous voulez, les réseaux, c'est le Graal, quoi. Et donc, j'ai parlé dans mon livre sur Guy Debord de certaines phrases de Bill Gates, des promoteurs de l'informatique, qui disent « nous allons évangéliser ». Voilà, c'est la bonne nouvelle, l'évangile. Donc la bonne nouvelle, c'est l'informatique, l'informatique pour tous et tout ça. Et on voit bien ce que Debord ne pouvait pas voir et pas prévoir, mais peut-être qu'il l'avait prévu, mais il n'a pas exprimé comme ça, si vous voulez, que finalement, ce qu'il appelle le renouvellement technologique incessant, on est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on est au-delà du renouvellement des générations d'appareillages techniques. On est vraiment dans un monde où la dynamique la plus puissante du capitalisme, c'est d'aller toujours vers plus de digitalisation, qui serait complètement accomplie à partir du moment où toute une génération serait née à l'intérieur de ce monde, sans avoir l'écart critique du monde d'avant, comme on disait pas à l'époque et qu'on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis, alors on le voit depuis les années 90 et 2000, nous voyons une génération qui est née à l'intérieur du monde digital. Et donc, il y a un rapport à l'art, à la culture, à la mémoire, au langage, à la logique, à la dialectique, au passé, complètement différent. Qui est traumatisant pour nous, qui sommes des êtres du XXe siècle. Et ça, Debord est très fort là-dessus, et il faut insister là-dessus, c'est qu'il a vu ce qui allait advenir d'une langue qui n'en serait plus une, qui serait une espèce d'idiome désorganisé, où la logique... À partir du moment où vous vivez dans un monde d'images, l'image ne construit jamais de dialectique. La superposition et le flux des images ne peut pas construire une dialectique, un raisonnement logique qui ne s'incarne que dans la conversation, dans l'échange. Il a vu l'effondrement de tout ça et c'est très fort là-dessus. Et là où déjà ça nous frappait à l'époque, c'est que relire ça aujourd'hui, les commentaires sur la société du spectacle, cette mauvaise réputation, parce qu'il en parle aussi un peu, panégyrique, c'est le voir aujourd'hui ce qui est advenu du monde numérique et de ce flux continu d'images qui sont sur tous les écrans, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas prophétiser à l'époque que chacun aurait un smartphone et passerait sa vie à scroller, comme on dit, ou à passer sur un réseau social d'une image à une autre, sur Instagram, etc., et être pris dans ce flux hallucinant. Donc il n'y a plus aucun rapport dialectique au monde aujourd'hui par cette généralisation des écrans.
Inter. Intelligence, service.
Au XVIIIe siècle, déborder signifie dépasser ce qui est prévu ou délimité, notamment dans la métaphore du fleuve outrepassant ses rives. Le verbe équivaut aujourd'hui à surabonder, regorger, fourmiller, être plein, être ensailli, en avancer sur quelque chose. Le dictionnaire renvoie à déluge, flot, flux, profusion, torrent, effusion, exubérance, surabondance, déchaînement, explosion, licence et libertinage. Guy Debord n'a jamais publié aucun livre sous pseudonyme.
Dites-moi, monsieur Lebrun, Guy Debord serait le lait sur le feu qui passe par-dessus bord ou le dentifrice qui ne rentrerait pas dans le tube ?
Debord, pour qui n'a lu que la société du spectacle et superficiellement, c'est un carrefour de malentendus. Ici, un écho du tintamarre que son nom a provoqué dans une émission de Polak. Le nouveau directeur des programmes de la télévision publique cherche une émission à la Polak, mais dit-il qu'il ne soit pas clivante. Faudra trouver un autre sujet que Debord.
Je crois en fait que ce livre est très étrange, parce que ce livre en fait, il en dit long sur une pathologie. Parce qu'il nous parle du spectacle comme s'il n'y avait pas eu d'histoire. Quelle histoire ?
Il n'y a pas
de Napoléon. Napoléon, c'était le spectacle.
Bon, et
alors attends, attends, 30 secondes. Louis XIV, c'était le spectacle. Alors
c'est
tout
pas
ça.
Non, du tout. Non, on n'a pas lu le même livre.
Non, on n'a pas lu le même livre.
Tout ça est gommé. Alors il satanise le spectacle qui serait censé. Il satanise le spectacle qui serait censé tout falsifier, qui serait censé régner tout seul. Il nous explique. Attends, je suis en train de.
Mais non, mais il nous raconte un autre livre.
C'est le livre que j'ai lu. Je veux dire, je peux prendre des extraits. Il nous explique que le secret se généralise, alors que j'ai l'impression qu'on entre dans une société de plus en plus transparente. Il nous dit que l'histoire disparaît. Pourquoi nous dit-il que l'histoire disparaît? C'est simplement parce que l'histoire ne va pas dans le sens qu'il souhaitait depuis mai 68. Monsieur Debord a écrit un livre très intéressant, mais il n'a pas lu les manuels historiques, et puis il ne lit pas les journaux. Alors, il ne lit pas les journaux.
Les dernières années sont difficiles. En 1984, les Bovici est abattu aux 22 longs rifles dans un parking souterrain des beaux quartiers de Paris. Debord se sent soudain en insécurité matérielle et morale. Il pense, comme le dit la grande presse d'ailleurs, qu'il est directement ou indirectement visé. Il passe de plus en plus de temps en Haute-Loire, dans un hameau ouvert à tous les vents, à qui il a fallu la magnifique obstination des hommes à défier les choses pour lui donner un nom, Chambaud. Il a toujours tenté de noyer son angoisse permanente dans l'ivresse, et il boit davantage.
Il n'est pas idiot, il voit que finalement il a perdu. Il a perdu. Après mai 68, quand on voit ce que deviennent les années 80-90, il sait qu'il a perdu. Donc il se prend une position comme ça de distanciation et il fait le bilan de sa vie en fait. Ses livres sont une forme de bilan, avec cette mélancolie qui lui est propre, parce qu'il a toujours aussi dit une chose, alors là, qui est son rapport métaphysique au temps, c'est qu'il a toujours eu une vive conscience de l'écoulement du temps, en fait. Il dit, j'ai toujours vécu au présent, il n'y a que le présent qui m'a intéressé, j'ai fait que ce que j'ai voulu, et voilà, j'ai essayé de jouer au présent, y compris dans la l'ivresse ou le libertinage, mais j'ai toujours eu cette conscience très vive de l'écoulement du temps, finalement la vie passe très vite. Il y a cette mélancolie finale qu'on sent très bien dans Panégyrique.
Dans les archives de Bord qu'a acheté et exposé la BNF, on trouve toutes les fiches Bristol qu'il n'a cessé de rédiger sur ses lectures et toutes sortes de sujets. Les éditions de l'Échappée les publient présentement, la stratégie selon de Bord, la poésie selon de Bord. Un ensemble de fiches sans ordre préconçu ont été conservées où il fait, sans rédaction particulière, la recension de ses erreurs et de ses échecs sous, je cite, le regard d'un citoyen suisse impartial. Une de ces fiches, pas un texte abouti. Et Cécile Guilbert, devant cette fiche.
Ce paradoxe, il n'a jamais écrit dans aucun journal, il n'a jamais paru à la télévision ou à la radio. Les médias ne lui ont pas consacré 100 articles dans toute sa vie. Pourquoi ces bavardages sur l'absence ? Monsieur Debord s'est toujours vanté de n'avoir jamais fait ce qu'il ne voulait pas faire, et il s'en est abstenu en effet, avec un cynisme et une indécence que peu de gens ont osé afficher. Mais il n'a jamais bien su ce qui lui plaisait dans la vie, quoiqu'il y ait eu diverses choses qu'on l'a vu constamment pratiquer, de l'ivrognerie à la séduction et de la lecture à... 3 petits points. Mais enfin, il n'a jamais conclu. Il a passé sa vie sans bien savoir ce qui lui plaisait le plus et ce qu'il aurait voulu faire. A-t-il souhaité un changement révolutionnaire dans la société? On est en droit de se le demander. C'est un peu idiot.
Ben non, c'est un aveu. C'est lui qui dit ça, de lui.
Vous croyez?
Oui.
J'ai du mal à le croire. D'abord, c'est trop mal écrit. D'ailleurs, il a très bien su ce qu'il ne voulait pas faire. C'est vrai qu'il y a eu cynisme.
Il dit... Le jeu, c'est plus important que le gain.
Oui. On préfère la chasse à la prise. Ben oui, parce qu'en fait, il dit « je n'ai jamais vécu qu'au présent, en fait ». Et ça, je trouve ça assez beau, parce que finalement, on ne vit jamais qu'au présent. Et quand on est un artiste, il n'y a que deux temps qui existent, c'est le passé et le présent.
Il a très bien su ce qu'il ne voulait pas faire. Oui. Le Centre Georges Pompidou, institution spectaculaire, s'il en est, a consacré de son vivant. Une exposition au situationnisme, ben, il n'y a évidemment pas participé, pas question de faire le contraire de ce qu'il a toujours prôné, et ensuite de paraître sur la scène de son renoncement. Le suicide lui a donc paru la meilleure manière de rester fidèle à lui-même. Il s'est tué à Chambaud en 1994.
Au lendemain de la mort de Guy Debord, évidemment, toute la presse en a rendu compte, et en a rendu compte, évidemment, comme d'un ennemi de la société, ce qu'il était, mais surtout quelqu'un... Lui disait lui-même qu'il était le dernier à avoir eu une notoriété anti-spectaculaire dans la mesure où il n'était jamais apparu dans le champ médiatique. Et À son époque, si vous voulez, Debord ne parle pas, dit j'ai une sorte de notoriété antispectaculaire, là c'est quand on se place du point de vue de l'ennemi, mais en fait lui ce qu'il revendique c'est une réputation, et mieux encore une mauvaise réputation. Et il y a d'ailleurs un livre de lui qui s'appelle « Cette mauvaise réputation », qui est une sorte de collation de tout ce qui a été écrit sur lui, qui est toujours faux, trafiqué, plein de propagande, plein de désinformation. Donc lui tenait à sa mauvaise réputation, en fait, et ça c'est aussi la part d'Andy de Debord, c'est-à-dire le plaisir aristocratique de déplaire, le fait d'y parvenir, évidemment.
Quand les archives de Guy Debord ont été décrétées trésor national, interdites de sortie de France, certains puristes ont froncé le sourcil, d'autres ont crié au scandale quand, à la BNF, une exposition après sa mort s'est ouverte à sa gloire. Sans doute les puristes réagiront-ils de même à cette émission.
Nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. Nous sommes de très grands artistes.
Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la prise de son, Thomas Robin. Nous remercions Cécile Guilbert qui vient de publier aux éditions Flammarion une chronique de ses articles dans La Croix, à la technique Anne-Laure Cochet et la réalisation Audrey Ripouille. We'll be right back.